Et voilà Docteur Doom, Monsieur Catastrophe, l'économiste Nouriel Roubini, oui, celui qui avait vu arriver la crise de 2008, et qui nous dit que la prochaine, ce sera...
So you might have by 2020 a perfect storm for the US and the global economy.
2020, l'orage se prépare pour 2020, c'est demain. Ben voilà, c'est le mois d'octobre, hein, le mois des crashs, le mois des cracks, le mois des crises, le mois des sombres prévisions, et le mois peut-être aussi où chez vous vous entendez « Oh, elle est dure cette rentrée ». Alors ce matin, je voudrais faire une spéciale dédicace aux jeunes, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants. Écoutez, ça n'est pas le moment de décrocher, c'est ce que vous disent les économistes. Faire des études, ça va vous rendre heureux, oui, plus satisfait de la vie. Et oui, c'est parce qu'avec un diplôme, votre vie, vous allez mieux la gagner. Mais même si on ne parlait pas d'argent, ce que vous disent les économistes, c'est que plus vous serez diplômé, plus vous aurez confiance en votre prochain, en l'avenir, vous serez optimiste. Donc pour le bien-être, avoir le bac fait déjà une grosse différence. Mais attention, pour trouver du boulot, là c'est bac plus 2 qu'il faut au moins viser. À partir de ce niveau-là, bac plus 2, le taux de chômage d'un jeune de 25 ans tourne à 5%. 5%. Alors je sais, dans la vie c'est compliqué, mais dans les chiffres, c'est clair et il faut le répéter, le plein emploi en France, les diplômés y sont déjà.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Voilà, une petite spéciale dédicace. Bienvenue, c'est le Mag Éco, une chouette étude signée par trois économistes de l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP. C'est très sérieux. On va vous mettre, on les connaît bien, on va vous mettre le lien sur le site. Nous sommes ensemble dans le Mag Éco jusqu'à 10h. Ce samedi, Céline Hila est notre réalisatrice, Valentin Pérez, notre attaché de production, et c'est Guillaume Roux qui nous accompagne à la technique. Quasiment 100% de dette publique, sommes-nous en danger? Allons-nous étouffer ou pas du tout? Eh bien, ce sera le débat. Je salue les éditorialistes. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Bonjour à tous.
Emmanuel Le Chypre de BFM Business, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Alors, une réaction à ce petit billet, Nouriel Roubini, les 5% de chômage, Emmanuel, les deux?
Alors, Nouriel Roubini, d'abord, il est devenu célèbre parce qu'il a prédit la crise de 2007-2008. Il faut savoir que jamais dans l'histoire, quelqu'un qui est devenu un gourou en prédisant une crise n'a réussi à prédire la crise suivante. Donc on attend surtout le prochain gourou. Qui sera le prochain gourou qui fera sa fortune pour les 30 prochaines années? Parce qu'évidemment, quand vous êtes un gourou...
Christian,
vous assure le reste de Roubini, il est très connu parce qu'il a prévu 5 des 3 dernières crises.
Et le taux de chômage des jeunes, rappelons, il n'y a pas de chômage de masse en France. Il y a un chômage massif des non-diplômés. Oui, Je rappelle juste que 80% des inscrits à Pôle emploi ont au mieux, le baccalauréat.
Bon, et notre sujet ce matin, c'est donc la dette publique. Nous nous retrouvons dans quelques secondes. Dans le MAG, ce matin, on parlera aussi beaucoup de cette réforme majeure. En marche, mais à bas bruit, je parle de la réforme des retraites. Consultation des syndicats, ça fait 6 mois déjà, et des syndicats et du patronat. Des ateliers participatifs organisés pour recueillir l'avis des Français. Ce matin, vous entendrez le reportage de Manuel Ruffez. Et on poursuivra la discussion avec l'invité du MAG. C'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Il sera dans ce studio vers 9h45. Juste avant 10h. Ce sera le moment Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Ce matin, c'est Jérôme qui vous a écrit.
Oui, alors Jérôme travaille en CDD. Son entreprise lui propose de passer en CDI, mais avec une baisse de salaire. Peut-être faire ça.
Et est-ce qu'il va accepter ou refuser, Jérôme? Vous allez l'aider. Ma vie au boulot, à tout à l'heure, tout de suite. Faut-il tirer l'alarme lorsque la dette frôle les 100%?
On peut dire qu'il y a le feu à la maison quand même.
Philippe Dessertine, directeur de l'Institut de Haute Finance.
Depuis des années, on tombe en disant même pas mal. Oh mais la dette augmente, mais quel problème quoi. Donc on a une dette publique colossale, on a une dette privée colossale. Donc la France est super endettée. Tous les autres ont réussi des réformes, nous effectivement, c'est jamais le bon moment.
C'est un État qui a cette dette et un État ne meurt pas. Donc il peut constamment rembourser sa dette.
Thomas Porcher.
Et puis enfin, cette dette, il faut la mettre en comparaison avec un patrimoine public que l'on détient.
Économiste, membre des économistes atterrés.
Et ce patrimoine public, il couvre quasi en totalité notre dette. Donc quand on prend tous ces éléments en compte, bah oui, la dette, c'est pas un si gros problème. Donc la dette, c'est quelque chose qui a été imposé finalement, inventé par des politiques pour promouvoir justement des coupes dans les dépenses sociales. Quand il faut baisser la fiscalité des plus riches, la dette, c'est plus un problème. Quand il faut couper dans les dépenses sociales ou investir dans le secteur public, là, la dette, c'est un vrai problème.
De 2007 à 2017, la dette publique,
Bruno Le Maire,
est passée de 64% à 98% du produit intérieur brut.
Ministre de l'économie.
Nous, nous inversons cette tendance. C'est un fait.
Ça va mieux en apparence.
Didier Migaud.
Mais la dette n'est pas encore stabilisée, elle continue d'augmenter.
Premier président de la Cour des comptes.
La non-maîtrise de l'endettement peut avoir des conséquences à partir du moment où vous avez une sensibilité au taux d'intérêt. Pendant plusieurs années, nous avons bénéficié de taux d'intérêt extrêmement bas. Mais ce miracle, entre guillemets, ne peut pas durer aussi longtemps que les impôts et taxes.
Moi, il me semble qu'effectivement, il faut avoir une bonne gestion de la dette publique, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette dette publique.
Éric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE.
Si, au nom de la réduction de la dette publique, on oublie qu'il faut faire des investissements dans l'éducation, on oublie qu'il faut faire des investissements dans l'environnement, alors on se trompe de voie.
C'est totalement psychologique.
Olivier Babeau.
Les 100%, il se passerait rien. C'est un peu comme le bug de l'an 2000. On se dit, il va se passer un truc. Non, il se passerait probablement rien.
Président du think tank Institut Sapiens.
Mais d'un autre côté, l'économie, c'est de la psychologie.
La dette de la France, la dette publique qui frôle les 100%, est-ce qu'il faut tirer l'alarme? Et ceux qui tirent l'alarme, est-ce que ce sont des fétichistes? Est-ce que ce sont des prudents? On va discuter de tout ça ce matin avec Christian Chavagneux et Emmanuel Le Chypre. Christian, d'abord, j'aimerais, comme toujours, la photo, la définition. Qu'est-ce que c'est la dette publique?
La dette publique, c'est quand les administrations publiques, alors c'est quoi? C'est l'État, les collectivités locales et les administrations de sécurité sociale dépensent plus qu'elles n'ont de recettes. Quand vous dépensez plus que vous avez de recettes, vous avez ce qu'on appelle un déficit et pour le financer, il faut aller chercher du crédit. Et l'ensemble de la somme de tous les déficits accumulés au cours des différentes années et décennies, c'est ça la dette publique. Alors pour avoir une idée de son évolution, on la ramène
Alors, à l'ensemble. Alors attendez, en chiffres, ça fait combien? Ça fait 2300 milliards
au mois de juin de l'année dernière. Enfin, de cette année, au mois de juin 2018. Ça veut dire quoi? Parce que 2300 milliards, ça veut dire quoi? Alors on la ramène au PIB, c'est-à-dire à l'ensemble de la richesse créée en France. On pourrait la ramener à plein d'autres choses, mais bon, ça permet des comparaisons internationales. Ça fait, aujourd'hui, on est à 99% du PIB. Est-ce que c'est important? Vous avez des pays comme l'Argentine qui sont à 60% du PIB et qui sont en pleine crise. Des pays comme le Japon qui sont à 235-240% du PIB pour lesquels il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est pas le ramener au PIB, c'est pas vraiment un truc important, même si ça se fait. Et puis, dernier point pour la photo, qui est-ce qui nous finance?
Oui, qui sont nos créanciers?
C'est cette dette publique.
À qui nous devons-nous de l'argent? Aux Français ou à d'autres?
56%, c'est des étrangers. Ah. Il y a 10 ans, c'était 66%. C'était les deux tiers. Aujourd'hui, c'est un peu plus de la moitié. Pourquoi? Entre les deux, il y a eu le fameux quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Alors, la Banque de France, qui fait le travail pour la Banque Centrale Européenne, est considérée comme un créditeur national. Donc 56% d'étrangers, donc 44% de Français. Et dans les 44% de Français, c'est surtout à peu près 20% des compagnies d'assurance. Elles ont besoin d'investir sur le long terme.
Les zinzins, les investisseurs institutionnels.
La Banque Centrale Européenne, donc la Banque de France pour aussi quasiment 20%. Et le reste, des banques et puis des intermédiaires financiers.
Emmanuel ?
Non mais il faut revenir quand même sur la définition et s'interroger un petit peu de ce que ça veut dire. Quand vous rapportez la dette au PIB, le PIB c'est la richesse créée annuellement. Donc c'est un flux de nouvelles richesses, c'est même pas le patrimoine de l'économie française, c'est la nouvelle richesse qu'on crée chaque année. Est-ce que c'est pas étrange de ramener la dette qui est un stock de accumulé à,
qui est la facture totale depuis tant d'années, oui.
Moi, je trouve ça étrange. Est-ce que c'est pas étrange de ramener une dette qui, par définition, est pluriannuelle au PIB, qui est aussi un indicateur annuel? Donc, voyez, moi, ce ratio dette sur PIB, il a une rationalité qui est quand même assez étrange. Si vous prenez un ratio que vous essayez d'être plus logique, c'est-à-dire vous prenez des flux par rapport à des flux ou des stocks par rapport à des stocks, vous arrivez à des niveaux d'endettement qui sont beaucoup moins spectaculaire.
Exactement.
Par exemple, si vous prenez le taux d'endettement de l'État et que vous le rapportez aux ressources de l'État, vous arrivez à un taux d'endettement de 20%, par exemple.
Donc
à
déjà,
chaque
le
fois,
thermomètre
non, ce
vous
que je veux dire
problème.
À tous ceux qui nous écoutent, c'est systématiquement, quand vous avez des chiffres, il faut s'interroger sur leur sens, leur signification, bon. Et pas faire de fétichisme.
Il l'a dit, ça commence mal, on est d'accord.
Attendez, on est là pour aussi trouver des points de convergence.
Et nos créanciers, effectivement, les étrangers, 20% quand même de la dette détenue par la Banque de France. Oui, aujourd'hui, et puis quand on dit les étrangers, il n'y a pas de gros riches, vous savez, qui tirent les ficelles.
Les fonds de pension américains.
C'est les retraités de tous les pays du monde. C'est les retraités français ou les épargnants français avec l'assurance vie. Donc beaucoup d'entre nous détiennent de la dette française sans trop le savoir même.
C'est de la Banque Centrale de Chine, c'est les pays pétroliers. Et puis dedans, à mon avis, quand on regarde, vous savez, qui achète la dette française ? On ne sait pas qui la détient, parce que vous pouvez toujours souscrire un titre de la dette française, puis elle le vendre à qui vous voulez. Donc, qui la détient vraiment, il faudrait suivre à l'heure par heure qui fait quoi avec la dette française. Mais quand on la vend, la première fois que l'Agence française du Trésor, donc qui place notre dette auprès des investisseurs, des épargnants du monde entier, qui vient nous acheter ? En fait, il y a trois grands pays, les Caïmans, le Luxembourg et Londres. Et on se dit, les Caïmans, c'est les investisseurs américains, les fonds de pension américains. Par Londres, c'est la Banque centrale de Chine et c'est les pays pétroliers. Et par le Luxembourg, on se dit qu'il y a peut-être quelques Français quand même qui passent par là pour acheter de la dette française, éviter de payer des impôts sur les intérêts. Donc ça se trouve, le domestique est plus fort que l'étranger.
Juste une petite parenthèse, un coup de chapeau à l'Agence France Trésor que Christian a signalé. Ils sont considérés aujourd'hui, nos traders de la République,
oui, c'est
on pourrait
ça.
Dire, ils sont considérés aujourd'hui comme parmi les vraiment les meilleurs du monde. Et ça joue.
Pourquoi ?
Ça joue dans la confiance. Pas parce qu'ils ont une maîtrise technique de l'émission de la dette qui fait qu'ils ont la confiance des investisseurs du monde entier. Et on peut même dire que quelques centièmes ou dixièmes de points de taux d'intérêt sont dus au fait qu'on a une très grande confiance dans la technicité de nos émetteurs de dette.
Alors, on va reparler des taux d'intérêt, évidemment, parce que c'était un peu ça le débat, on l'a entendu dans le zapping. Hein. Est-ce qu'on sait cependant à quoi a servi cette dette ? Parce que cette dette, elle était beaucoup plus faible. Par exemple, en 10 ans, elle est passée de 65% à quasiment 100%. Ouais. Christian, à quoi
est-ce... Au milieu des années 70, elle était à 20%.
Elle était à 20%.
Ouais. Bah oui, c'est très simple. Vous pouvez recalculer quoi ? Le déficit budgétaire hors dépenses d'investissement public. D'accord ? Tout ce qui reste, c'est le déficit qui a été obligé de financer autre chose que de l'investissement. Donc, soit le remboursement de la dette passée, soit des dépenses de fonctionnement. Donc, c'est vraiment un calcul très simple.
Mais faites-le pour nous quand même, parce que là, il est 9h24. Donc, allez-y.
Si une fois qu'on a le déficit et qu'on a retiré les dépenses d'investissement public, il reste un excédent, c'est-à-dire que la dette finance surtout de l'investissement. S'il reste un gros déficit, c'est qu'elle finance surtout autre chose que de l'investissement. J'ai fait la moyenne sur 78-2017, c'est positif d'à peu près 1% du PIB. Ça veut dire que, à part quelques années de dépression, c'est-à-dire juste après le choc pétrolier, au début des années 90, juste après 2007-2008, bien sûr. À part ces années-là très, très ponctuelles, l'essentiel de la dette publique, voire la quasi-totalité, sert surtout à financer l'investissement public.
L'investissement public, c'est-à-dire des infrastructures.
Non, on ne peut pas être d'accord.
c'est les chiffres.
Non, 5% des dépenses de l'État chaque année seulement sont consacrées à des investissements.
Donc, 5% du PIB.
5% de la dépense publique.
Non, l'investissement public, c'est à peu près 5% du PIB.
C'est franchement... Non, mais on ne va pas se battre sur le chiffre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très peu, finalement. Vous avez quand même une dette qui est liée à un train de vie de l'État, globalement, qui est excessif.
Non, ça, c'est faux.
80%, ça, ouais. L'État, c'est 80% de la dette publique. La sécurité sociale, c'est 11%. Les collectivités locales, c'est 9%.
C'est des conventions, Emmanuel.
Donc, grosso modo, il y a quand même un sous-investissement. Et d'ailleurs, si vous faites le solde entre le patrimoine de l'État qui reflète l'état des investissements passés et la dette, vous voyez que ça diminue de façon spectaculaire. C'est-à-dire qu'on était encore positif il y a quelque temps et le patrimoine de l'État vieillit considérablement. Donc, on a quand même encore légèrement. Encore légèrement, oui, mais on était à 40 il y a pas si longtemps. Bah, on était à 40 il y a pas si longtemps.
Donc la dette, Alexandra.
Donc
votre idée, Christian, c'est de dire que cette dette, elle a été utile et elle nous constitue un patrimoine. Emmanuel, en revanche, nous dit non, il y a eu trop de dettes faites pour quoi financer les traitements des fonctionnaires. C'est ça que vous êtes en train de dire ?
Tout dysfonctionnement, etc. S'il y avait de l'investissement public davantage, on n'aurait pas le niveau de croissance qu'on a aujourd'hui. On aurait un niveau de croissance plus élevé. Un potentiel de croissance plus élevé.
Donc débat sur à quoi a servi cette dette. Débat aussi sur est-ce qu'elle est soutenable. Parce que là, on est en train de parler de niveau. Vous avez commencé, Christian. Si c'était ma dette, 100% de ma richesse, ça ne serait insoutenable. On entend souvent des gens qui comparent l'État à une entreprise même. Est-ce que pour mon pays, avoir 100% de dette ou quasiment, c'est grave ?
Déjà, ça nous coûte combien ? En 2017-2018, ça nous coûte à peu près 40 milliards d'euros par an. Ça veut dire quoi ? C'est l'équivalent de 1,7% du PIB. Le pic en 96-97, c'était 3,5. On est passé de 3,5 à 1,7 et vraiment, vous pouvez regarder la courbe, ça tombe tout le temps. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt sont super faibles. Aujourd'hui, on dépense en intérêt autant ou aussi peu que quand la dette publique était à 20% au milieu des années 70. Donc, est-ce que c'est grave? Parce que les taux d'intérêt vont forcément remonter.
C'est ce que j'allais vous dire.
Dit Alexandra, j'ai vu dans son œil qu'elle allait me dire ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci, à mon sens, parce que le coût de l'endettement, il est faible. Et la Banque Centrale Européenne, elle a encore des marges de manœuvre. Elle va faire attention à ce que les taux d'intérêt ne remontent pas. Il n'y aura pas de bulle obligataire tant que la Banque Centrale Européenne le voudra. Donc, pour moi, les taux vont rester faibles. Et elle nous a dit, je vais commencer à augmenter mes taux au plus tôt après l'été 2019 et tout doucement. Donc on aura une remontée des taux
mesurée. Alors que la Fed, elle, la réserve fédérale américaine, elle va les remonter beaucoup plus vite.
Elle est en train déjà de les remonter beaucoup plus vite, mais pour nous ça devrait aller, d'autant plus que notre dette elle est à peu près sur, en moyenne sur un peu plus de 7 ans, c'est-à-dire que si demain matin les taux passent de le 0,5% qu'on emprunte aujourd'hui à 10 ans à 1%, il va falloir un septième à chaque fois de la dette va augmenter des taux d'intérêt. Donc on a vraiment le temps. La dette, elle est stabilisée.
Elle va décroître tout doucement.
Et puis la France a une dette, mais comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, elle a aussi des actifs. Et les actifs, c'est supérieur à la dette de 8 points de PIB. C'est-à-dire qu'on laisse à nos enfants des actifs, pas de la dette.
Donc Christian nous dit non, ça va bien aller. Là, ça va décroître doucement. 100%, c'est pas si grave. Emmanuel Le Chypre, dans ma Maastricht, il y a quand même cette limite de 60%, dont on a compris qu'il fallait impérativement la respecter. L'Allemagne y est, à ses 60%. Est-ce que vous trouvez que 100%, c'est pas grave? Est-ce que ça peut tenir? Est-ce que c'est soutenable?
Alors d'abord, juste la comparaison avec un ménage, bon, elle tient pas la route. Hein. D'abord, pour une raison très simple, d'abord qui est qu'une famille, elle est mortelle, l'État, il est par définition immortel, donc à perpétuité, effectivement, et puis il a des missions, encore une fois, d'investissement qui sont extrêmement forts. Alors, est-ce que c'est grave? On l'a dit, il y a des pays qui ont 250% de dette sur PIB, ça provoque pas grand-chose. La charge de la dette, effectivement, elle est aujourd'hui très faible. Il faut savoir que si les taux d'intérêt remontent de 1%, c'est 2 milliards d'euros de charge de la dette supplémentaire l'année qui suit. Et 2 milliards de plus l'année d'après. C'est-à-dire qu'en gros, c'est chaque année, c'est 2, 4, 6, 8, 10 milliards. Donc, effectivement, on est vulnérable à ça. Quel est l'autre risque? Quand vous êtes très endetté, c'est effectivement qu'à un moment, ceux qui vous prêtent ne vous fassent plus confiance et relèvent la dette. Après, cette histoire...
C'est toute l'histoire de l'Italie en ce moment.
Il faut rappeler que la culture économique n'arrive pas à démontrer de façon scientifique qu'il y a un niveau de dette au-delà duquel tout explose. Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits par les fameux travaux par Kenneth Rogoff notamment, qui soi-disant montraient qu'au-delà de 100%,
90,
ça devenait problématique. En fait, ils ont bidouillé les chiffres. Il y a des États qui n'ont pas été pris en compte. Il y a des travaux du FMI qui ont dit effectivement le contraire. Et je rappelle juste l'histoire des 60% parce qu'elle vaut quand même le coup d'être rappelée.
Allez-y.
On avait dit à l'époque... Pourquoi il faut 3% de déficit? Parce que à l'époque la croissance nominale, c'est-à-dire la valeur plus les prix, c'était 5%, et on disait pour maintenir la dette à 60% du PIB, il faut que le déficit dépasse pas 3%, sachant qu'on a 5% de croissance par an. Mais sachant que les 60% n'étaient pas documentés théoriquement. Donc non, la limite elle est plus politique qu'économique.
La limite, en fait, c'est que l'Allemagne est à 60% et dit, moi, j'y suis bien arrivé, et que la France, c'est ça le danger.
Non, c'est ça le danger.
C'est d'avoir une divergence terrible.
Que l'Allemagne soit à 60%, parce que, du coup, ça veut dire que les gens qui veulent placer sur des dettes publiques qui sont pas trop risquées, ils vont tous venir acheter notre dette à nous, donc les taux vont rester encore plus bas. Attention quand même, l'avantage pour l'Allemagne, c'est que, si demain il y a une crise, alors, une crise interne, je crois pas, mais c'est une grande crise internationale qu'on peut pas prévoir, sauf évidemment Nouriel Roubini qui a tout prévu. Demain, nous, on n'aura pas les capacités budgétaires, ou alors on va faire monter notre dette à 110-120%. Et là, le vrai problème, c'est l'idéologie de l'anti-impôt. On a Gilles Carrez, qui est quand même pas un gros gauchiste, et puis Cotis et Champsaur, qui étaient des gens de l'INSEE, qui nous ont dit.
Alors Gilles Carrez, député, il a été président de la commission des finances.
Exactement. Et puis deux grands économistes qui ont dirigé l'INSEE, qui étaient très proches du pouvoir, qui sont vraiment en pas à gauche, ils nous ont dit, si on n'avait pas eu toutes les baisses d'impôts du début des années 2000, on aurait attaqué la crise de 2007-2008 avec une dette publique sur PIB inférieure de 20 points de PIB. Ce qui peut nous tuer, ce qui peut nous faire un gros problème de dette publique, c'est cette idéologie anti-impôt que Emmanuel Macron a remis une pièce dans le cochon enlevant les impôts des plus riches.
Juste une chose, est-ce qu'il faut se désendetter? Moi, j'aimerais comprendre ça.
Dites-vous. Oui, il faut se désendetter parce que c'est des marges de manœuvre.
Faut faire attention.
Quand vous avez 40 milliards d'euros de charges de la dette, c'est 40 milliards d'euros que vous pourriez consacrer à d'autres choses.
Bah oui.
Si vous me dites aujourd'hui, vu le niveau très bas des taux d'intérêt, est-ce que c'est pas rationnel d'investir? Bien sûr que si.
Bah oui.
Dans des projets qui rapportent plus que le taux d'intérêt auquel vous empruntez. Si demain demain, on nous dit, on prend 15-20 milliards pour équiper en 2 ans la France en haut débit. Imaginez ce que ça génère en matière de croissance potentielle. Il faut le faire.
Pour faire des centrales nucléaires.
Il faut le faire, évidemment, mais il faut pas perdre la confiance des investisseurs étrangers. Et pourquoi c'est embêtant quand même que l'Allemagne soit à 60, descende à 60 et que nous on soit à 100? C'est qu'on voit bien qu'on est dans une Europe qui est complètement travaillée par des forces centrifuges.
Tyrannie.
Le Brexit, les nationalismes. Ouais. Avec cette idée derrière qui est que on en a marre de payer pour les autres. Et qu'est-ce qui va se passer à la prochaine crise si l'Allemagne descend à 60 et que nous on est à 100 et que les Italiens sont à 130? C'est qu'il y a un moment où les Allemands ils peuvent dire on en a marre de payer pour les autres. Et donc là c'est l'Europe qui est vraiment en danger.
La dette publique, on va en reparler. Évidemment, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on ouvre ce dossier. Comme tous les samedis, Christian Emmanuel, nous partons voir l'économie à présent comme elle se passe ailleurs. Je vous emmène aux États-Unis pour parler de l'entreprise qui veut nous vendre tout, partout et tout le temps, Amazon.
Major headline tonight for American workers from online giant Amazon.
Today that it's raising the minimum wage for all of its US employees to $15 an hour.
Bonjour Loïc Loury.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes le correspondant de France Inter à New York et ça a beaucoup fait parler chez vous cette semaine. Les augmentations de salaire annoncées chez Amazon, hein, l'entreprise de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde qui a dit « nous avons écouté les critiques ».
Eh oui, c'est un joli coup de communication pour lui et pour Amazon, une entreprise aussi prospère que critiquée pour les conditions qu'elle impose à ses salariés. À partir de novembre, le salaire minimum sera fixé à $15 de l'heure. La hausse est spectaculaire et elle concerne 250 000 salariés, mais aussi 100 000 saisonniers employés au gré des pics d'activité. Il faut dire qu'ici, outre-Atlantique, le salaire de base n'atteint pas les $7,50 de l'heure, ce qui veut dire, Alexandra, que les salariés d'Amazon les moins bien payés vont voir leur paye doubler, et cela dès le mois prochain. On a pu voir d'ailleurs leur joie éclater dans une vidéo publiée sur Internet au moment de l'annonce de cette très bonne nouvelle. Même Bernie Sanders, sénateur médiatique classé à gauche, soutient des plus précaires à féliciter l'entreprise qui pèse plus de 1000 milliards de dollars en bourse.
Loïc, quand même, je voudrais vérifier une information. Est-il exact que 24 heures après avoir fait cette annonce sur les augmentations de salaire, Jeff Bezos a supprimé certains bonus chez Amazon ?
Eh bien oui, c'est la contrepartie de ces augmentations de salaire. Des employés moins précaires avec plus d'ancienneté vont voir s'envoler ces bonus mensuels ainsi qu'un programme de rémunération en actions. Pour certains, cela représentait plusieurs centaines de dollars chaque mois. Ils ont exprimé leur frustration, notamment sur Twitter. Mais l'explication est assez simple. Ce ne sont pas eux, bien installés au sein de l'entreprise, qui inquiètent Amazon. Au contraire, des petites mains qui ont beaucoup moins à perdre et risquent à tout moment d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Le taux de chômage en effet est au plus bas aux États-Unis depuis 50 ans et Amazon a besoin de cette force de travail à l'approche du fameux Black Friday ou encore des fêtes de fin d'année. Le géant n'est d'ailleurs pas la première entreprise ces derniers mois à avoir augmenté ses salaires. Tout cela, en somme, n'était qu'une manière rentable de faire taire les critiques.
Loïc Loury avec nous depuis New York. Merci à vous, merci à Christian Chavagneux, à Emmanuel Lechypre. Dans la prochaine demi-heure, zoom sur les prochaines réformes sociales avec Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, invité du Mag'Éco. Et donc nous commençons avec cette réforme des retraites programmée pour 2019. Les retraites, c'est une enveloppe de 310 milliards d'euros. Et l'objectif, c'est tout réinventer, un objectif colossal. Aujourd'hui, nous sommes dans la première phase. Il y a des concertations avec les partenaires sociaux, ou consultations plutôt, depuis 6 mois. Et puis en région, il y a des ateliers participatifs pour les citoyens. C'est là que les Français disent déjà tout ce qui cloche. Exemple, dans le Pas-de-Calais, à Arras, notre reporter Manuel Ruffez était dans la salle.
Bonjour. Bonjour mesdames.
Prendre une pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci. Oui. Et voilà, monsieur, c'est tout bon. Votre numéro de table, c'est le numéro 11. Bonne journée.
On vient d'être conduit dans une très belle salle voûtée, très haute, sous plafond. Les participants sont déjà en place, ils sont déjà autour de tables, réparties en petits groupes de 5 ou 6. Ça commence à se mettre en place, on sent que ça va être lancé bientôt la réunion.
Bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer plus dans les échanges, et là, je vous serai à vous, on passe connaissance.
Je m'appelle Valérie Palmiotti.
J'étais une ancienne chef d'entreprise qui a eu un petit parcours un peu chaotique, puisqu'il y a 4 ans, j'ai arrêté mon entreprise. Je suis restée un moment au chômage et en fait, pendant 3 ans, je viens de m'occuper de mon papa âgé. Et je voulais aujourd'hui venir pour parler de la place des aidants et de quand on fait un break dans sa vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, les 3 années que j'ai passées auprès de mon papa, je ne les regrette absolument pas, mais... Pour moi, ça a été 3 années où je n'ai pas cotisé, si vous voulez.
Alors, Marie-Paul Leguet, je suis retraitée de l'agriculture. Je pense que vous devez savoir que le régime agricole est un des régimes les plus bas de France. Et je suis venue ici pour essayer de faire ce que je peux pour qu'il soit un peu plus vivable.
À Arras, l'atelier participatif se déroule au musée des Beaux-Arts. 80 participants, évidemment en semaine, on trouve beaucoup de déjà retraités. Mais pas seulement. Il y a aussi tous les inquiets, tous ceux qui pensent qu'ils n'auront pas de retraite. Et puis tiens, il y a tous ceux qui ont reçu, vous savez, l'enveloppe bleu turquoise, le fameux relevé d'informations sur nos droits à la retraite. Et ils n'y comprennent rien. Les trimestres, les décotes, les 42 régimes, les droits différents entre le public et le privé. La promesse du gouvernement, c'est justement la simplification et la justice. Son homme clé, le haut commissaire à la réforme, s'appelle Jean-Paul Delevoye, et lui aussi était à Arras.
Pourquoi il faut changer le système actuel ? On voit bien qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un « je vais garantir ta retraite » parce que c'est l'avenir de ta profession qui garantit ta retraite est extrêmement préoccupant. Parce que les professions vont tous changer et vous allez faire plusieurs métiers tout au long de votre vie. Donc si à chaque fois que vous changez de profession, vous changez de régime, c'est hyper compliqué. Donc nous, on dit c'est peut-être au moment opportun où chacun puisse avoir un régime identique, avec des règles identiques, qui fait qu'à même carrière, même taux de cotisation, même revenu, même retraite.
C'est ça, c'est le principe du système universel. C'est la phrase qu'on entend, c'est un point cotisé donne le même droit pour...
Alors, la retraite sera le reflet de votre carrière. En fonction de votre revenu, vous acquérez des points, vous aurez un capital point que vous aurez tous les ans, et vous porterez ce point que vous soyez à l'étranger, en France, que vous soyez agriculteur, artiste, journaliste, salarié du privé ou du public. Il n'y a plus de différence, un seul régime, une seule règle, une seule pension, c'est clair et c'est responsabilisant.
Nous allons maintenant découvrir avec Jean-Paul Delevoye les principes clés du système universel des retraites sur lesquels vous travaillez.
Donc moi c'est Gilbert, j'ai 55 ans, je suis cadre infirmier en fait.
Vous savez déjà ce que vous allez faire comme proposition ?
Pour moi j'irai au-delà avec des plafonds par rapport aux cotisations. Un patron qui gagne 400 000 euros par mois va cumuler un nombre de points impressionnant par rapport à un salarié qui est au SMIC à l'heure actuelle. En moment de la retraite, je veux bien qu'il ait une retraite plus conséquente vu qu'il a eu un train de vie plus conséquent tout au long de sa carrière. Mais il faut également, dans le système de solidarité, que ça soit mieux réparti.
Julien, enseignant contractuel. Je suis par ailleurs militant à Sud Éducation et à l'Union syndicale solidaire.
Comment vous la vivez cette journée alors ? Ça vous semble quand même constructif ? Ça vous semble utile d'être venu jusqu'ici ?
J'avoue un certain scepticisme sur le fait que ces ateliers puissent changer quoi que ce soit au projet, puisqu'on voit que même au niveau local, on parle beaucoup de consultations et qu'en général, ça a un peu d'impact sur les résultats. Je pense que ce qui peut avoir de l'impact sur la question des retraites, c'est la mobilisation dans les entreprises et dans la rue. Je pense qu'effectivement, on a besoin, notamment la mobilisation du 9 octobre sera déterminante pour pousser à une réforme qui soit une réforme juste.
Est-ce que quand on sera retraité, on aura, lorsqu'on partira à la retraite, la garantie que la retraite avec laquelle on va partir n'évoluera pas à la baisse, c'est-à-dire que le point ne sera pas revu à la baisse.
Quelle garantie que demain, les futures retraites ne dégringolent pas, le point finalement diminue fortement?
Avec votre système, ce que je crains, monsieur, c'est qu'en fait, on baisse le montant des retraites.
Quand on quitte Arras avec en tête déjà ce qui semble être l'architecture globale du futur système de retraite tel que l'envisage le gouvernement. Mais avec au moins une question en tête, pourquoi changer ? Pourquoi transformer l'existant ? Et pourquoi ça paraît aujourd'hui si impératif ?
On est dans le 14e arrondissement, boulevard Jourdan, près du campus du même nom, le campus Jourdan qui accueille notamment l'école d'économie de Paris, et on va rencontrer l'économiste Antoine Bozio.
Donc Antoine Bozio, je suis maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales et je suis le directeur de l'Institut des politiques publiques, IPP. Donc il n'y a pas d'urgence à changer de système. On a fait de nombreuses réformes, souvent sous le coup de l'urgence, pour essayer d'assurer la soutenabilité à court terme de notre système. Par contre, il y a un impératif d'arriver à le transformer pour arriver à avoir un système qui soit plus juste, plus transparent. Et c'est pour ça que c'est un grand chantier de transformation, c'est-à-dire bon, comment on peut avoir le même système de retraite en termes de masse de pension, le taux de remplacement, mais avec les mêmes règles pour tous, les mêmes droits pour tous, à la fois pour le contributif et à la fois pour la partie de solidarité.
Et comment ça va fonctionner? Comment on acquiert ces points? Comment on acquiert ces droits?
Donc, il y a deux façons d'acquérir des points. Il y a dans la partie contributive, où chaque fois que vous avez des cotisations sur votre salaire, sur votre traitement, sur vos revenus de non-salariaux, vous payez des cotisations. Et chaque fois que vous en payez, des points seront crédités sur votre compte retraite. Et deuxième façon d'acquérir des points, les points non-contributifs, qui seront financés par les impôts et la solidarité nationale, parce qu'on aura décidé que le fait d'avoir des enfants donne des points additionnels, le fait d'avoir tel et ça, tout est possible et imaginable en termes de... Le point important de ces points non contributifs, ce ne sont pas des points gratuits au sens où on les rajoute mais on fait croire que personne ne les finance, ils seront bien financés par la solidarité nationale, par les impôts.
C'est déjà appliqué ailleurs. Il y a des exemples dans des pays voisins où ça fonctionne effectivement.
Il ne faut pas caricaturer le débat à l'étranger en disant que c'est parfait, idéal et qu'on n'a qu'à faire la même chose. Le cas, par exemple, suédois, qui est souvent mis en avant, ils ont fait à la fois la mise en place d'un système en capitalisation et une réforme qui est proche du système là, qui est proposé en termes de réforme. Donc souvent, les Suédois répondent « Ouh là là, partie en capitalisation, c'est très compliqué, il faut choisir des fonds. » Donc, il y a un mélange de selon ce que les pays ont fait en termes de réformes exactes, on peut avoir des réactions qui sont très différentes.
La Suède, parlons-en. Rendez-vous est pris à Paris avec le correspondant de presse de l'Expressen, Magnus Falkehead, auteur du livre « Le modèle suédois qui attend les Français » chez Payot.
Voilà, on est quatrième étage, porte de droite, je sonne. Bonjour, Manuel Ruffès, France Inter.
Bienvenue. Entrez.
Et alors comment ça se passe, la retraite en Suède? Tout va bien?
Ça dépend des années, parce qu'en Suède, on a une retraite maintenant qu'on appelle en accordéon, qui s'adapte selon la conjoncture, donc les années fastes, les retraites sont plus importantes, les années de vaches maigres, les retraites réduisent.
Donc c'est un modèle comme ce qu'on attend ici en France, un modèle universel, le même pour tous?
Oui, on n'a absolument pas 35 caisses de retraite, on est tous sous le même parapluie, tous sous l'État, et là-dessus, il n'y a plus de discussion en Suède par rapport à ça, on l'accepte très bien. Ouais. Aujourd'hui, il y a très peu de Suédois qui partent avant 65 ou 64 ans, mais on s'en formalise un peu moins en Suède parce que... Il faut voir aussi nos entreprises et nos lieux de travail qui sont peut-être... On a le travailleur suédois est un peu moins cassé à 64 ans qu'en France où je trouve que les environnements de travail sont beaucoup plus durs, même physiquement, même ergonomiquement, oui.
La réforme des retraites en marche, c'était le reportage de Manuel Ruffet.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et en studio avec nous, le secrétaire général de la CGT. Merci de nous avoir rejoints et bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Un système de retraite universel, plus de justice, les mêmes droits pour tous, la fin des 42 régimes différents, ça c'est le principe affiché de cette réforme. Qu'en pensez-vous ?
Que du mal. Que du mal parce que le système actuel, c'est un vrai système solidaire. Alors il y a besoin de simplification, il y a certainement besoin d'avoir moins de régimes différents, mais il faut garder le principe de la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que une génération finance la retraite d'une autre génération. Alors évidemment, il y a des problèmes de ressources, il y a besoin de faire rentrer plus d'argent dans les caisses de retraite, mais... Nous avons un système solidaire. C'est le principe de la sécurité sociale. D'ailleurs, c'est valable pour la retraite, c'est valable pour le chômage, c'est valable pour la santé.
C'est notre État-providence mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
C'est un système social qui fait beaucoup d'envieux dans le monde.
Aujourd'hui, vous avez dit, on a un problème de ressources, c'est exact. Hein. Il n'y a plus assez d'actifs, il y a de moins en moins d'actifs.
Non. Il n'y a plus assez de cotisants. C'est pas tout à fait la même chose.
Alors,
il n'y a plus assez de cotisations. C'est-à-dire que le principe et ce qu'a annoncé le gouvernement, par exemple, en début de semaine, c'est cette farce qui consiste à dire on va augmenter votre pouvoir d'achat en baissant les cotisations sociales. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous diminuez les cotisations sociales et donc vous dites bah, on va augmenter le pouvoir d'achat.
Et ça n'est pas qu'une bonne nouvelle pour vous ?
Bah c'est, bah, évidemment, avoir 15 euros ou 30 euros de plus sur son salaire pour ceux qui sont dans la galère, je comprends que c'est intéressant. Mais à long terme, ce qu'on vous donne d'un côté, vous allez l'avoir en moins de l'autre. Comment on finance la santé ? C'est bien avec des cotisations sociales. Donc si vous augmentez
le salaire... Là, on change tout le circuit. Hein. Le gouvernement dit,
on change le système
social
français.
Je fais de la CSG,
français.
On fait ça avec de l'impôt, donc...
On passe de la carte vitale à la carte bleue. C'est-à-dire que vous n'êtes plus égaux devant la santé, devant le chômage, devant la retraite. C'est en fonction de votre compte en banque que vous allez pouvoir vous soigner. Donc c'est fondamentalement différent. Nous, on est pour un système solidaire. Et pour les retraites, eh bien, il y a quelques mesures très simples. Par exemple, pour avoir plus de cotisations. Et si les femmes étaient payées autant que les hommes dans notre pays ? Vous voyez ? Je crois que M. Macron a annoncé que c'était une des priorités de son quinquennat. Il a même fait un grand show à l'ONU pour dire qu'il fallait, ça devienne une grande cause mondiale. Eh
bien, mais pourquoi le système à points pour vous, ça n'est pas... On entend ce Suédois qui finalement nous dit, bah si, ça marche. Pourquoi le système à points pour vous, ça n'est pas acceptable ?
On a croisé, parce qu'évidemment, nous aussi, on rencontre des syndicalistes de tous les pays. Le système à points a plusieurs défauts. Le premier, c'est que sous couvert d'égalité, il est profondément inégalitaire. Parce que vous ne cotisez que quand vous êtes en activité. Or, notre système est solidaire parce qu'il peut y avoir des accidents de la vie professionnelle. Le chômage, la maladie, etc. Eh bien, quel que soit votre parcours professionnel, nous avons un système qui permet de réduire les inégalités parce que vous cotisez, parce que c'est le principe de la solidarité. Par points, si vous cotisez pas, vous n'avez pas de points. Et quand vous êtes à la retraite, pardon. C'est-à-dire que, parce que la retraite, vous pouvez la prendre en ayant des conditions de pension qui permettent de vivre. Vous savez que déjà dans notre pays, ça touche principalement les femmes d'ailleurs, puisqu'elles sont les principales touchées par le temps partiel imposé. Eh bien, on peut pas vivre, vous le savez bien, on peut pas vivre avec des pensions qui sont sous le seuil de pauvreté.
Donc
c'est pour ça
vous...
que beaucoup de retraités continuent à travailler avec des petits boulots.
Donc pour vous, ce système de points dont on comprend hein, que c'est ce que va écrire le haut-commissaire à la réforme,
Macron, oui.
C'est aussi ce que souhaite Emmanuel Macron, ce système de points, vous êtes farouchement contre.
Oui, parce qu'il est inégalitaire. Et il va conduire de fait à, premièrement, allonger l'âge de départ à la retraite, parce que vous pourrez, et on va vous dire, vous pouvez partir à 62 ans, mais si vous n'avez pas les moyens de vivre, vous allez donc continuer à travailler pour avoir plus de points. Et donc, la finalité, c'est que vous allez partir à 65, 67 ans, et encore, on ne connaît pas comment va être déterminée la valeur du point. Dans certains pays, la valeur du point est fluctuante en fonction de la conjoncture, qui décide de la conjoncture, en fonction de l'âge, de la durée de vie,
donc,
etc.,
oui.
etc. Donc, y compris pour les retraités, le point pourra changer d'une année à l'autre. C'est ce que disait d'ailleurs votre journaliste suédois. Une année, on a un peu plus, et puis une année, on a un peu moins. Ça, c'est le contraire de la solidarité. Et on a besoin d'un système solidaire, plus que jamais, plus que jamais.
Donc ça va être difficile, Philippe Martinez, cette réforme-là, ça peut pas bien se passer avec la CGT ?
Nous, on souhaite pas une réforme du système. On souhaite améliorer le système actuel. Et je vous ai donné des propositions. Il faut moins d'allègements de cotisations pour les employeurs, notamment pour les grandes entreprises. On n'arrête pas de leur faire des cadeaux. Ça fait 20 ans ou 30 ans, je regarde les économistes dans le studio. Est-ce que le chômage a diminué au nom de la diminution du coût du travail ? Non. Donc, il faut plus de cotisations.
Donc, vous arrivez avec des propositions.
Oui, oui.
Est-ce qu'elles sont... Il y a eu 6 mois de consultation. Il va y avoir encore 6 mois de consultation jusqu'à ce que le projet soit finalisé. Est-ce que vous vous sentez écouté ?
Pour l'instant, c'est le haut-commissaire qui nous écoute, Monsieur Delevoye. Alors, il nous écoute, mais il a une lettre de mission, une lettre de cadrage. Et c'est le principe de Monsieur Macron. C'est-à-dire, on a le droit de discuter du moment qu'on arrive à l'objectif que lui s'est fixé. C'est pas du dialogue, ça. Et on le voit pour l'assurance chômage. On vient de recevoir. C'est une négociation strictement entre les patrons et les syndicats. Vous voyez ?
Alors ça démarre la semaine prochaine.
Ça démarre vendredi
le 12,
prochain.
Ouais, ouais.
Mais le principe, c'est on a une lettre de cadrage. Vous voyez ? C'est ce qu'ils appellent une lettre de cadrage. Mais on a déjà l'objectif à atteindre. C'est-à-dire économiser 4 milliards d'euros sur le dos des chômeurs.
C'est pas possible ?
Attendez, mais...
Il faut pas le faire ? Il y a 35 milliards de dettes.
Mais c'est toujours un problème de recettes. Vous voyez la mesure que je vous ai décrite qui consistera à nous dire vous allez avoir plus de pouvoir d'achat. En fait, c'est moins de cotisations pour ceux qui sont au chômage. Et nous, on conteste le fait qu'on est au chômage par plaisir. Enfin, comment on peut comment on peut accepter de tels propos? Le gouvernement, et surtout le président de la République, oppose toujours les catégories entre elles. Les retraités sont des privilégiés parce que soi-disant ils seraient payés à rien faire, les chômeurs seraient des feignants. Vous savez que uniquement 42% des chômeurs touchent une indemnisation.
Le bonus-malus, Philippe Martinez, ça n'est pas dans votre lettre de cadrage. Est-ce que vous pensez que c'est enterré? Alors le bonus-malus, je rappelle, c'est une augmentation, une diminution des cotisations patronales en fonction de leur abus ou pas de contrat court.
Alors le bonus-malus effectivement n'est pas dans la lettre de cadrage, comme quoi certaines promesses du candidat Macron ont été oubliées en route. Et nous ne sommes pas pour un bonus, nous sommes uniquement pour un malus.
Mais est-ce que vous pensez que c'est enterré, puisque ça n'est pas dans la lettre de cadrage?
Dès que vous croisez Monsieur Macron, vous lui posez la question. Nous, en tout cas, on revendique un malus. Un malus parce que des bonus, les très grandes entreprises en ont beaucoup, et donc il faut un malus parce que pour pénaliser les entreprises et toutes les entreprises qui pratiquent trop souvent les contrats à durée déterminée très courts. On veut aussi taxer de malus les entreprises qui imposent le temps partiel. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont 80% des femmes qui sont frappées par le temps partiel, avec les conséquences que ça a sur la pension de retraite. Donc voilà quelques propositions. Nous, on est pour un malus.
Donc vous voulez en discuter, mais avec qui vous allez en discuter? Est-ce que vous pensez que pour vous, c'est encore sur la table?
Mais le principe d'une négociation entre patronat et syndicat, c'est de tout mettre sur la table et puis de discuter. Or, je vous l'ai dit, le principe de Monsieur Macron, c'est de dire on vous laisse discuter, mais voilà ce qu'on veut à l'arrivée de ces négociations. C'est-à-dire qu'avant de discuter, on nous impose déjà le résultat. C'est pas possible. Et on a une expérience en matière de formation professionnelle, par exemple, où l'accord a été signé. Nous ne l'avons pas signé, mais d'autres l'ont signé. Et qu'a fait le gouvernement? Il a dit non, c'est pas bon. On change tout et on fait autre chose dans la loi. Donc on peut pas continuer comme ça.
La dégressivité des allocations pour les hauts salaires, ça, c'est une piste qui a été mise sur la table par le gouvernement. Je voudrais vous entendre.
Pourquoi des salariés, quel que soit leur salaire, seraient pénalisés parce qu'ils sont au chômage? Ils ont cotisé et ils doivent toucher en fonction de leur cotisation. Par contre, nous proposons, parce que peu de personnes le savent, que ceux qui touchent plus de 13 000 euros par mois, ce qui est déjà conséquent, cotisent proportionnellement autant que les autres. Or, il y a un plafond au-dessus de 13 000 euros. Ben, une mesure comme ça fait rapporter 650 à 750 millions pour l'assurance chômage. Vous voyez qu'il y a des pistes pour trouver de l'argent.
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, je vous écoute et vous dites en fait l'an 1, l'an 2, rien n'a changé. On nous consulte mais tout est écrit d'avance. Vous organisez une journée de mobilisation. Ça n'a pas marché à l'an 1. Pourquoi est-ce que ça marcherait mieux à l'an 2?
Ça
n'a pas marché.
Ça n'a pas donné les résultats que nous attendions, mais ça marche. Enfin, il y a quand le président de la République a une cote de popularité, je sais pas si on peut encore l'appeler comme ça, autour de 27 à 30%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mécontentement dans ce pays. Notre souci, c'est comment ces mécontentements, et je le redis à ceux qui nous écoutent, au lieu de râler devant sa télévision ou en écoutant France Inter, il faut écouter France Inter. Mais il faut aussi se manifester. Alors, il y a des difficultés pour agir. Tous ceux qui sont précaires, et vous le savez très bien.
Mais vous pensez qu'en ce moment il y a un moment particulier, une fenêtre de tir pour que
partout où je vais beaucoup rencontrer les salariés. Il y a un mécontentement énorme. Allez à l'hôpital, par exemple, vous verrez dans quelles conditions travaille le personnel hospitalier. Il y a beaucoup de mouvements de grève, mais sous des formes particulières, parce que quand on est à l'hôpital, on peut pas faire grève parce qu'on a de la conscience professionnelle. Et on s'occupe de ses patients. Donc ce mécontentement, sous des formes diverses, il faut qu'il se manifeste. Il y a la rue, mais il n'y a pas que la rue.
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, merci d'avoir été sur France
Inter. Merci à vous.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon.
Sandrine, c'est Jérôme qui vous a écrit sur Twitter. Il travaille en CDD dans la production d'énergie. Son employeur lui propose de passer en CDI, mais en baissant son salaire de 5%. En a-t-il le droit, vous demande Jérôme.
Eh bien oui Jérôme, mauvaise nouvelle, l'entreprise peut vous proposer un CDI avec une baisse de salaire, même si vous faites exactement le même boulot en CDD. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de se passer de votre accord. Il ne peut pas décider dans son coin de modifier les termes de votre contrat. Dans le cas où le CDD se poursuit naturellement en CDI, sans signer d'avenant, les mêmes conditions continuent de s'appliquer, le montant du salaire, les horaires de boulot, rien ne change. En revanche, l'employeur qui veut baisser votre rémunération dans les règles va vous proposer un avenant au contrat de travail. Et là, vous êtes libre d'accepter ou de refuser cette offre. Cette règle est d'ailleurs valable pour les salariés en CDI. On croit souvent que l'entreprise n'a pas le droit de baisser le salaire fixe. Or, c'est faux. Une direction peut aussi le proposer au CDI avec un avenant. La situation est même devenue plus simple avec les nouveaux accords de performance collective créés par les ordonnances Macron. Si un salarié refuse les termes de l'accord qui prévoit une réduction de salaire avec ou sans baisse de temps de travail, il n'est plus licencié pour motif économique individuel. Il part avec ses indemnités, un abondement de 100 heures sur son compte personnel de formation. Il touche les allocations chômage, mais les obligations de l'employeur sont réduites à minima. Pas d'accompagnement, pas de congé de reclassement.
Je reviens au cas de Jérôme. S'il refuse la proposition de CDI avec baisse de salaire, est-ce qu'il va toucher sa prime de précarité ?
En théorie, refuser une offre de CDI après un CDD ne donne pas droit à la prime de précarité de fin de contrat. Mais l'entreprise doit vous proposer d'occuper le même poste pour un salaire au moins équivalent. Ce n'est pas votre cas, Jérôme. Donc oui, si votre collaboration s'arrête avec ce CDD, vous touchez bien une indemnité équivalente à 10% de votre rémunération totale brute. Même si l'écrasante majorité des emplois sont en CDI, le CDD est devenu la porte d'entrée pour trouver un boulot. 87% des embauches se font en CDD. Alors, c'est à vous, Jérôme, d'évaluer si une baisse de salaire de 5% est envisageable ou pas. À vous de mesurer si les CDI se font plutôt rares dans votre secteur ou si votre employeur manque de compétences. C'est une question de rapport de force pour négocier le montant du salaire. Il y a 35 ans, un CDD sur deux se terminait en CDI. Aujourd'hui, c'est 1 sur 5.
Ouh, là, les chiffres aussi sont clairs. Sandrine Foulon, ma vie au boulot.